Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Ravi de vous retrouver pour parler une fois encore de sport sur VOA Afrique. Élisée Oumpati devant ce micro et pour m'accompagner, je suis avec mes éternels consultants. D'abord, le plus proche de moi, Lawal Dinkosuro. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver ce lundi.
Voilà, direction Columbus dans l'Ohio pour retrouver Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk est à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Valdo Simoyamba est lui à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis le doyen Jules Valentin Ngoué intervient comme toujours de Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Ce soir, nous allons parler des qualifiés pour le second tour préliminaire des interclubs de la CAF et du tirage au sort des groupes de la CAN de Beach Soccer qui a lieu au Mozambique. Sporama, c'est parti. Les premiers matchs comptant pour le tout préliminaire retour des interclubs de la CAF ont eu lieu ce week-end et en Ligue des Champions. Coton Sport de Garoua a assuré à domicile pour jouer au prochain tour les Botswanais de Royal Leopard. Qualification tranquille des Nigériens de Nigélec opposés après au Raja de Casablanca et puis l'ASV Club de Kinshasa y sera après avoir battu 3-1 les Botswanais de Gaborone. Valdo, les Dauphins Noirs joueront ensuite le High Club du Kadiogo.
Élisée, un adversaire bien connu par l'entraîneur de V-Club, Raoul Chungu, qui a déclaré en conférence d'après-match avoir suivi les matchs allés à I-Club de Kadogo et à Santé Kotoko. Seul bémol pour son équipe, le manque de championnat qui pèse sur ses joueurs. Heureusement qu'il dit avoir une alternative en attendant le démarrage de ce championnat. Mais Élisée, ça n'a pas été facile pour les Dauphins Noirs de Kinshasa de passer cette étape puisqu'ils ont été égalisés 15 minutes après l'ouverture du score des Varel Jovial à la 10e minute de jeu. Les hommes de Raoul Chungu ont inscrit le deuxième but à la 36e minute sans prendre l'ascendant tactique sur Gaborone United, très technique et joueuse. Les saluts de V-Club est passé sur balle arrêtée à la 83e minute de jeu. Les Togolais Marouf a inscrit le but victorieux et qualifie les clubs de la RDC à la prochaine étape, une étape qu'il faudra assurer face au Rai Club du Kadiogo du Burkina Faso qui a sorti les Ghanéens de Asante Kotoko après séance des tirs au but.
Les Burkinabés ont réalisé l'exploit d'aller battre à Kumasi l'Asante Kotoko. Succès à l'extérieur également de l'ASCO de Kara 1-0 sur le terrain du FC Nouadhibou. Le club togolais va croiser les Algériens du AJS Kabylie qui ont renversé les Sénégalais de Kazaspor. Amédine, ça cale dès les préliminaires pour le club de Ziguinchor.
Dès les premiers tours de cette compétition, il faut dire que pourtant les Sénégalais avaient réussi à remporter la première manche, mais c'était sur la plus petite des marques. Donc il fallait aller créer l'exploit en Algérie, mais ça n'a pas été le cas puisque les champions du Sénégal ont été renversés, renversés par les Algériens de la jeunesse sportive de Kabylie qui se sont imposés sur le score de 3-0. Il faut dire que cette compétition n'a jamais été favorable pour les clubs sénégalais qui ont eu du mal à tirer leur épingle de jeu. D'ailleurs, aucun club sénégalais n'a eu à gagner, que ce soit la Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF. Donc, la traversée du désert continue pour les clubs sénégalais avec l'élimination du Casasport dès le premier tour Élysée.
Ça cale également pour les Gabonais du Stade Mandji, battu 1-0 au Nigeria par Plateau United. Jules, les Gabonais peuvent regretter le résultat du match aller.
Élisée, au vu des circonstances particulières qui ont précédé la rencontre décisive entre le Stade Mandji de Port-Gentil et le Plateau United de Jos, la défaite étriquée d'un 1-0 concédée par les Gabonais est tout sauf une surprise, tant le périple des Port-Gentilais a été pénible. Avec au départ des titres de transport obtenus à l'arraché le jeudi soir, puis un vol programmé le lendemain matin avant d'être repoussé à 18h pour cause d'avarie d'aéronef, le tout couronné par une arrivée à Abuja dans la nuit, les joueurs du Stade Mandji sont passés par tous les états. Et contrairement à leurs homologues de l'équipe nationale, qui avait plutôt réagi positivement en surclassant la RDC par dépit. Lors des éliminatoires de la CAN, le Stade Mandji n'a pas pu vaincre le Cygne indien. La défaite d'un but à zéro qui sanctionne sa courte aventure est logique pour une première expérience sur la scène continentale. Mais le plus important est de rebondir.
Tout est clair. Et maintenant pour le reste, l'AS Otto-Odo non plus n'ira pas plus loin que le premier tour puisque éliminé par les Sud-Africains de Cape Town. De même pour les Djiboutiens d'Atatsola, 7 sortis par les Soudanais d'El Merrek. Clubs béninois aussi ont été sortis dès le premier tour. Coton FC de Ouida, qui s'est incliné deux fois devant la SEC Mimosa en Ligue des Champions, 1-0 et 2-0. Même scénario en Coupe CAF où les Buffs du Borgou ont été corrigés par les Serra Lyonnais de Kalon FC. Lawal, ça ne marche toujours pas pour les clubs béninois.
Oui, Élisée, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça, parce que la qualité du championnat dans ce pays n'est pas à la hauteur de ce qui doit être pour participer à une compétition. Ça fait plusieurs années que ça se passe comme ça, en dehors de ESAE, entre-temps, qui a pu se qualifier pour la phase de groupe et qui a été bon dernier dans cette...
Mais qui avait quand même bénéficié d'un bon championnat.
Oui, c'est pour ça que je dis la qualité du championnat au Bénin n'est pas de nature à favoriser donc une certaine aisance des clubs en compétition de
un championnat d'élite à 36 clubs.
Et puis avec deux phases et tout le reste, c'est quand même triste pour ce pays que ça se passe comme ça. Mais on ne peut récolter que ce qu'on a semé. C'est vraiment un championnat amateur, on va le dire comme ça, parce que ça ne donne rien de bon au plan continental et c'est triste pour ces férus du foot dans ce pays, Élysée.
Et voilà qui est clair. On continue avec les résultats en Coupe de la CAF. Et les Togolais de la SEK joueront les Algériens du Mouloudi après avoir battu 3-0 les Guinéens de FC Milo. L'autre club algérien, la JS Saoura, sera face aux Ivoiriens de Gayonwa. Les Nigériens de Kwara United valident leur qualification aux dépens de l'Est Douane de Niamey, mais par Renault Star, sorti par les Marocains de l'ASFA. Amine, les militaires joueront les Guinéens d'Ashanti Golden Boy au second tour.
On se souvient de leur mésaventure lors du match aller, avec un match un but partout et une querelle d'occasion de but manquée à Rabat. Au retour, ils ont bien maîtrisé le sujet, notamment après la première mi-temps, puisque au début de la seconde période, ils ont réussi à marquer grâce à leur attaquant ivoirien Joseph Gnado, dont c'était la première titularisation de la saison. Puis par la suite, ils ont fait le dos rond, ratant même quelques occasions en rupture pour doubler la mise, notamment de la part d'Adam Nafati à deux reprises. Ce qui est certain, c'est que l'équipe a souffert en toute fin de rencontre, parce que l'équipe de Remo Stars a essayé de pousser. Le gardien El Kred a sauvé quelques situations chaudes devant ses propres buts. Aujourd'hui, la SFA a réussi à passer au deuxième tour préliminaire. Il va falloir continuer à progresser, notamment lors de cette double confrontation avec l'équipe guinéenne de Golden Boys. Mission assez à la portée de l'équipe de l'ASFAR, mais visiblement, on se rappelle aussi que le football est tout sauf logique.
Le dernier match de cette Coupe CAF se joue demain entre les Maliens de l'AS Real et les Burkinabés de l'AS Douane, en attendant le second tour prévu entre le 7 et le 9 octobre prochain. Et en attendant le second tour préliminaire du 16 interclubs de la CAF, les joueurs vont rejoindre d'abord leur sélection pour le compte de la journée FIFA du mois de septembre. Une fenêtre qui servira de préparation surtout pour les mondialistes à deux mois du coup d'envoi de la compétition. Le champion d'Afrique, le Sénégal, sera opposé à la Bolivie le 24 et à l'Iran trois jours plus tard. À Médine, le sélectionneur Aliou Cissé a convoqué 29 joueurs, dont 7 nouveaux.
Tout à fait, Élisée. Aliou Cissé a convoqué 29 joueurs. dont 7 nouveaux ans pour les deux matchs que le Sénégal va disputer contre la Bolivie et l'Iran. Ce sera les 24 et 27 septembre. Il faut dire que c'est une liste hein, de 29 jours. C'est d'abord un record et c'est une liste très opposante où l'on note l'arrivée massivement des jeunes pétris de talent avec l'arrivée de très bons joueurs. Il faut noter l'arrivée de Noah Fadiga qui n'est autre que le fils de Khalidou Fadiga, l'ancien gaucher magique des Lions de la génération 2002. C'est un jeune latéral droit qui est vraiment pétri de talent. Il joue en ce moment à Brest. Il y a également l'arrivée de Ismaël Jacobs. Ismaël Jacobs, il joue à Monaco. C'est un jeune sénégalo-allemand. Hein. Il n'a que 23 ans. On note aussi l'arrivée de l'attaquant de Villarreal, le jeune attaquant Nicolas Jackson. Il n'a que 21 ans. Il y a aussi celle du milieu terrain de Rayo Vallecano en Espagne, Pate 6. Il est le jeune frère de Salou 6, mais il ne va pas rencontrer son grand frère au niveau de la tanière pour ces deux matchs, puisque Salou 6, qui a été sacré champion d'Afrique avec les Lions au Cameroun, n'a pas été retenu par Alou 6, parce que tout simplement, Salou 6 n'a pas encore de club. Hormis ces jeunes joueurs, il faut aussi noter que Alou 6 a convoqué aussi les cadres. Hein. Quand je parle de cadres, je veux parler des Sadio Mané, des Khalidou Koulibaly, de Gane Gueye, Edouard Mendy, etc. Mais il faut dire que l'arrivée de ces jeunes loups, hein, que je considère, de ces jeunes que je considère comme des jeunes loups aux dents longues, est un signal très fort pour la Coupe du Monde. Élysée.
On écoute justement le technicien sénégalais qui justifie le choix de ces deux adversaires.
Nous jouons des matchs pour nous préparer vraiment à cette Coupe du Monde-là. Et aujourd'hui, cette équipe bolivienne, quoi qu'on puisse dire, a une certaine agressivité. On connaît la grinta de ces équipes Amérique du Sud. Je pense que ça peut coller, même si deux équipes ne se ressemblent pas parfaitement, comme on dit. Mais ça peut ressembler un petit peu à la mentalité de l'Équateur. Le deuxième match, c'est l'Iran. L'Iran est qualifié à la Coupe du Monde. Pour moi, sur le côté Asie, cette équipe iranienne fait partie des meilleures équipes. Leurs joueurs jouent en Europe aussi, certains d'entre eux. Donc pour moi, nous allons vraiment vers deux confrontations très compliquées, très difficiles et qui peuvent nous servir à mieux nous préparer.
Du côté camerounais, Rigobert Song a choisi 26 joueurs pour affronter l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Jules, les absences remarquées sont celles de Zambo Anguissa et de Maxime Choupo-Moting.
Élisée. La participation heureuse d'une sélection subsaharienne à une compétition aussi relevée que la Coupe du Monde est conditionnée par un mode d'emploi spécifique qui se décline en trois volets. D'abord, l'amélioration de la cohésion de jeu avec les meilleurs joueurs retenus et à ce propos, le cru actuel du Cameroun n'a pas la qualité des précédents. Le deuxième volet est que les équipes subsahariennes, souvent lentes à atteindre leur plein régime, doivent éviter de perdre leur premier match, d'où la nécessité de soigner au départ la sécurité défensive. Et pour cela, la solidarité du groupe, l'abattage physique, le mental et l'esprit commando sont de rigueur. Or, échaudé par la nervosité agissante de Zambo Anguissa, étalée lors du match éliminatoire contre le Burundi, qui a laissé des traces dans les vestiaires, Rigobert Song et Eto n'ont pas envie de revivre les conséquences désastreuses des clashs d'Achille et Mana, Alexandre Song et Assou Ekoto, qui avaient puni le groupe en 2010 puis 2014. On les comprend et Zambo Anguissa a d'abord intérêt à garder le profil bas.
Voilà qui est clair. Le Maroc, en revanche, a rappelé Hakim Ziyech et Younes Belhanda pour les matchs contre le Chili et le Paraguay prévus en Espagne. Alors, Amine Birouko, on s'y attendait.
C'est un retour à la normale au sein de la Fédération royale marocaine de football et au sein de l'équipe du Maroc, puisque lors du dernier comité directeur avant le limogeage de Vahid Halilhodžić, le président avait insisté sur la nécessité de préparer la Coupe du Monde dans la sérénité. La nomination de Walid Regragui était un objectif qui allait dans ce sens. Et la convocation de Hakim Ziyech met fin à une polémique. Le retour de Younes Belhanda, c'est faire appelle un joueur en forme, un joueur expérimenté qui n'a plus mis les pieds en sélection depuis 3 ans. Il y a eu juste une polémique autour de l'attaquant de l'Etihad Arabie Saoudite, Abdelrazak Hamdallah, mais ceci est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, c'est 31 joueurs qui ont été convoqués pour ces deux rencontres amicales en Espagne, qui vont permettre de juger de la cohésion de l'équipe du Maroc, de la validité du projet de Walid El Greghi, à moins de deux mois de la Coupe du Monde.
La Tunisie et le Ghana ont également respecté la tradition. 30 joueurs pour les Aigles de Carthage qui seront opposés aux Comores et au Brésil et 29 pour les Black Stars qui joueront eux aussi le Brésil puis le Nicaragua. Et Otto Addo a convoqué plusieurs binationaux. On vient à voir présent Valdo. Éliminé du mondial, la RDC jouera aussi deux matchs amicaux durant cette période. D'abord contre le Burkina Faso et la Sierra Leone et pour sa première. Sébastien Desabre rappelle Cédric Bakambu qui revient après avoir boudé la sélection suite à la désillusion du mondial qatari.
Élisée Bakambu qui vient justement de quitter l'Olympique de Marseille en France avec un bilan peu logé. Cette saison, il n'aura joué que 56 minutes sans le moindre but. Destination Olympiakos en Grèce où il faudra vraiment retrouver les temps de jeu et surtout son efficacité devant le but. C'est ce Bakambu-là que Desabre a besoin. Le rappelons en sélection, c'est un message lui lancé pour lui dire qu'il a encore sa place dans cette tanière. Lui qui a décliné la sélection après la défaite contre le Maroc. Avec Bakambu, il faut ajouter 27 autres joueurs convoqués par les techniciens français pour ces deux matchs amicaux contre le Burkina Faso et la Sierra Leone. L'on note également l'absence du capitaine Marcel Tisserand, ce qui est certain, Desabre veut bâtir un groupe qui partira sans nul doute de ces 28 qu'il étoffera au fur et à mesure selon les performances des uns et des autres. Quand on sait que sur cette liste, il y a un certain Kalala Maele des Young Africans en Tanzanie, auteur de deux triplés en Ligue des Champions de la CAF qui n'a pas été appelé. Allez-y comprendre.
Merci Valdo. Un autre retour, celui de Stéphane Sessayon parmi les 23 joueurs béninois convoqués par Moussa Latondji. Le technicien local explique ce choix.
Stéphane, c'est un joueur vraiment professionnel. Et là maintenant, il a eu quelques minutes dans son club, là où il a signé. Donc c'est déjà positif pour moi de le voir jouer déjà, monter sur le terrain. Le reste, tout le monde connaît Sessayon, de quoi il est capable. Dès qu'il sera physiquement au point, on sait de quoi il est capable. On aura tout le temps devant nous pour les deux matchs-là, pour le voir. Et je l'ai invité maintenant pour voir de quoi il est capable, s'il peut encore nous aider ou bien un peu plus.
Lawal, c'est un retour qui fait polémique.
Oui, tout à fait normal, Élisée. La polémique devrait, en toute logique, s'installer parce que deux ans sans fouler les stades, aujourd'hui, il revient. Et c'est vrai qu'on avait regretté son absence au Bénin pendant longtemps pour les différentes campagne perdue malheureusement. L'expérience qu'il a pourrait peut-être aider les jeunes à mieux se porter. Mais à 38 ans, qu'est-ce qu'il peut encore apporter?
À 38 ans, il a dégringolé de Paris Saint-Germain. Il s'est retrouvé pratiquement sans club. Il faut le
aujourd'hui, il a, c'est parce qu'il a signé quelque part à Chypre ou à Malte le sélectionneur a dû le rappeler. Mais fondamentalement, est-ce qu'il a encore les couilles en place pour véritablement affronter les challenges qui l'attendent? C'est vrai que beaucoup auraient aimé son retour depuis longtemps, mais il n'a pas de compétition dans les jambes. On espère qu'il va apporter un plus à cette sélection, mais ça ne fait ni chaud ni froid. L'essentiel, c'est qu'on ait les résultats. Mais est-ce qu'il peut apporter ce plus-là pour qu'on puisse avoir les résultats? On attend de voir Élisée.
En attendant, les écureuils qui seront au Maroc pour cette journée FIFA vont livrer deux matchs contre la Mauritanie et Madagascar. Termine avec le football du sable. La CAN de beach soccer et les groupes sont connus à l'issue du tirage au sort effectué à Maputo. Le Mozambique, pays hôte du tournoi, est logé dans le groupe A avec le Malawi qui participera à sa première CAN, le Nigeria et le Maroc, troisième lors de la dernière édition. Amine, le royaume chérifien doit jouer gros dans cette poule difficile.
Même dire que l'équipe du Maroc de beach soccer est tombée dans le groupe de la mort, puisque il faut préciser que le Mozambique a été en finale de la dernière édition. C'est la deuxième meilleure nation africaine après le Sénégal. Le Nigeria a déjà disputé deux finales de CAN de beach soccer. Ce sont des adversaires redoutables. Le Maroc n'a pas hésité sur les moyens en recrutant un entraîneur sénégalais qui avait officier au sein des Lions de la Teranga qui avait remporté la compétition chez eux il y a 2 ans exactement. Le Sénégal avait alors, après, réussi à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc c'est un homme d'expérience qui veille aux intérêts de l'équipe du Maroc, mais c'est un groupe qui se renouvelle petit à petit et qui va devoir faire ses preuves dans une compétition à l'extérieur, qui va devoir surtout s'extirper d'un groupe très compliqué avant de pouvoir viser plus haut.
Dans le groupe B, on retrouve le Sénégal, tenant du titre, Madagascar, champion en 2015, l'Égypte et l'Ouganda. Ahmedine, un grand défi attend Mamadou Diallo, le nouvel entraîneur des Lions du Sable.
Ah oui, Élisée, un grand défi attend le nouveau sélectionneur des Lions du Bichoke, Mamadou Diallo, car il doit tout faire pour que le Sénégal puisse conserver son titre de champion d'Afrique, car le Sénégal a pour ambition de décrocher un 7e sacre. Donc, tout est clair, net et très limpide. Le successeur de Ngall Sila n'a pas droit à l'erreur. Et ce ne sera pas facile puisque le Sénégal est logé dans un groupe avec des pays comme le Madagascar. Le Madagascar qui a eu à remporter le championnat d'Afrique une fois. Il y a aussi l'Ouganda, mais il y a aussi l'Égypte. Certes, ce sont des adversaires coriaces, mais je pense que c'est des adversaires prenables. En tout cas, Mamadou Diallo et ses poulains vont devoir négocier la première phase qui est les matchs de poule pour pouvoir s'en sortir. Après, ils vont essayer de bien négocier les demi-finales et pourquoi pas la finale pour remporter un 7e titre continental pour les Lions du Bichoke Élysée.
Alors Valdo, 2 groupes bien relevés.
2 groupes assez relevés avec des défis à relever pour certains pays qui se donnent certainement l'obligation d'aller chercher les titres. Après plusieurs tentatives, Élysée, les cas dans le groupe A du Maroc qui a fini 2 fois 3e, 2 fois 4e. Il est certain que le Nigeria est largement favori vu son palmarès dont 2 titres gagnés. Mais il va devoir faire avec les Mozambique, pays hôte et vice-champion qui voudrait bien améliorer son parcours. Pour sa première, les Malawi, lui, qui a tout à gagner dans cette compétition, se tient en embuscade et peut aussi jouer sa carte. La bataille s'annonce également rude dans le groupe B avec les Sénégal, champion en titre et favori de la compétition, qui n'est pas là pour tergiverser face au Madagascar, nostalgique de son titre de 2015, et l'Égypte, qui n'a jamais joué les 2 premiers rôles, relégué à la 3e et 4e place, et un Ouganda en quête d'une présence régulière. Au dernier carré, lui qui a fini 4e en 2021, ça va donc s'y savoir Élysée du 21 au 28 octobre 2022 à Maputo, au Mozambique.
Et comme à Dakar, lors de la précédente édition, Jules, ça peut aussi se jouer entre le Sénégal et le Mozambique.
Élysée, de prime abord, les favoris qui ressortent de ce casting semblent bien être le Sénégal et le Mozambique. Le Sénégal est le numéro 1 africain du genre depuis qu'il s'est approprié dans la constance la pratique de ce sport nouveau en Afrique, là où son rival du début, le Cameroun, a lâché prise après une première Coupe du Monde honorable. L'extension de ce sport sur le continent a fait apparaître de nouveaux concurrents ambitieux à l'image du Mozambique, Madagascar, le Maroc, le Nigeria et l'Égypte, d'autres pays côtiers et de tourisme balnéaire, une activité qui, comme au Brésil, concourt à créer un vivier potentiel de pratiquants. Donc, rien ne dit que le Sénégal sera un archi-favori absolu aux côtés du pays hôte, légitimement décidé à faire d'un coup d'essai un coup de maître. Mais il existe tout de même une inconnue dans cette équation. C'est la capacité des différents pays majeurs à réunir à l'occasion de la phase finale leurs meilleurs éléments dans le monde pour une préparation réussie qui fera certainement la différence.
Merci Jules. À noter que la compétition se tiendra du 21 au 28 octobre prochain. C'est la fin de Sporama. Merci à tous ceux qui nous ont suivis un peu partout dans le monde. Au revoir.